VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 30 juin 2021. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, à RDC, le groupe État islamique a revendiqué les attaques du week-end à Beni, où le maire vient d'autoriser la réouverture des écoles et marchés après 48 heures de fermeture. La Centrafrique rejette les conclusions des experts de l'ONU. Bangui estime que leur rapport vise à amener les Nations Unies à prendre des sanctions contre son allié russe. Au Nigeria, les indépendantistes du Biafra réclament un procès équitable pour Nnamdi Kanu, le leader de l'hip-hop, emprisonné. La canicule dans l'ouest des États-Unis et du Canada, la vague de chaleur a fait une dizaine de morts. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Le groupe État islamique a revendiqué les attaques à la bombe commises le week-end dernier dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la première fois que le groupe revendique un attentat suicide dans la région. Claire Morin-Gibourg.
Selon un communiqué publié hier soir par SAIT, organisation américaine spécialisée dans la propagande djihadiste, le groupe État islamique a revendiqué son premier attentat suicide en RDC visant des chrétiens dans un bar à Beni, assumant aussi dans la même ville une explosion dans une église. Un communiqué du groupe État islamique de la province d'Afrique centrale confirme qu'un de leurs frères, Abu Khadija, a réussi à actionner sa ceinture explosive dans un bar de Mabakanga, dans la ville de Beni. Daesh a aussi assuré être responsable d'une autre explosion samedi et de combats avec l'armée congolaise, faisant état de plusieurs morts, des bilans non confirmés. Depuis 2013, Beni et ses environs sont la cible du groupe ADF, dont les attaques ont fait au moins 6000 morts, d'après l'épiscopat congolais. Le président Félix Tshisekedi a décrété le 6 mai l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri.
Les écoles, marchés et églises de Beni ont repris leurs activités après 48 heures de fermeture suite à ces attaques à la bombe. Mais le couvre-feu reste en vigueur. Les habitants sont appelés à rester dans leur maison de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre, a fait savoir aujourd'hui le maire de la ville. Au Congo-Brazzaville, une dizaine d'ONG ont exigé au cours d'une conférence de presse la libération immédiate du docteur Alexandre Zabana, 77 ans, qui serait entre la vie et la mort à la maison d'arrêt de Brazzaville. Une demande de mise en liberté provisoire introduite par son avocat, maître Eric Ibwanga, a été rejetée par le juge. Détenu depuis plus de 3 mois, cet activiste des droits de l'homme est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. La dizaine d'ONG, dont l'OCDH, le RALBOL, l'ACAT et Survie ont demandé que Dr Alexandre Zabana soit rapidement transféré dans un centre hospitalier approprié. Bangui rejette un rapport d'experts de l'ONU dénonçant des violations du droit international humanitaire par des militaires centrafricains et des instructeurs russes qui les appuient contre des rebelles. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Il s'agit là d'une volonté manifeste de ternir par tous les moyens l'image de notre institution militaire alors que celle-ci continue de consentir d'énormes sacrifices pour restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, a déclaré Rameau-Claude Biro, ministre de la Défense. Le rapport des experts chargés du contrôle de l'embargo sur les armes imposées à Bangui accable les instructeurs russes et les militaires centrafricains. Il les accuse, entre autres, d'assassinat, occupation d'écoles et pillage à grande échelle, y compris d'organisations humanitaires. Avec l'appui des soldats rwandais et des paramilitaires russes, les forces gouvernementales ont repris aux rebelles plusieurs villes et une partie des 2/3 du pays. Le document indique que la Russie reconnaissait au 18 avril la présence de 532 instructeurs, mais plusieurs sources estiment que ce chiffre va de 800 à 2100. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas Greenfield, appelle la Russie à mettre fin à la violence et demander des comptes aux responsables.
Le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra réclame justice et un procès équitable après l'arrestation de son leader, Nnamdi Kanu. Il était recherché depuis 4 ans. Abdourahman Dia.
Nous rappelons au gouvernement du Nigeria et à ses agences de sécurité que notre leader mérite la justice et un procès équitable, a déclaré le porte-parole de l'IPOB, Emma Powerful, dans un communiqué. Nous affirmons également sans équivoque qu'aucun mal ne doit être fait à notre leader. S'il lui arrivait quelque chose de fâcheux, le gouvernement nigérian en serait tenu pour responsable, ajoute le communiqué. Le chef de l'IPOB a été arrêté dans un lieu inconnu après 4 ans de cavale et ramené au Nigeria pour y être jugé selon les autorités. Nnamdi Kanu, 53 ans, avait disparu depuis un raid de l'armée à son domicile fin 2017 alors qu'il était en liberté sous caution. Il a été présenté hier mardi devant la justice qui a autorisé son incarcération et annoncé que son procès pour terrorisme se tiendrait en juillet. Un porte-parole du Haut-Commissariat britannique à Abuja a précisé que Kanu n'a pas été arrêté au Royaume-Uni. L'ex-Biafra, région du Sud-Est essentiellement peuplée par la communauté Igbo, a été le théâtre d'une sanglante guerre civile à la fin des années 60. L'IPOB, créée en 2013, a relancé la revendication indépendantiste de cette région.
Au Ghana, 2 manifestants ont été abattus et 4 autres ont été blessés lors d'affrontements avec les forces de sécurité. Dans la région d'Ashanti, dans le sud du pays, des habitants de la ville d'Ejoura s'étaient réunis mardi pour manifester contre le meurtre d'un jeune militant de la société civile frappé à mort par plusieurs personnes non identifiées samedi dernier. La police et des agents de sécurité sont intervenus violemment pour réprimer la manifestation. La police a déclaré avoir arrêté 2 suspects en lien avec la mort du jeune activiste et assure que le calme était revenu dans la localité. Éthiopie, les autorités minimisent la perte de Mekele, la capitale de la région du Tigré, affirmant être en mesure de reprendre la ville quand ils le veulent. Mekele était sous le contrôle de l'armée fédérale depuis le 28 novembre, 3 semaines après le lancement par le premier ministre Abiy Ahmed d'une offensive pour renverser les autorités locales issues du Front de libération du peuple du Tigré. Les troupes pro-TPLF ont repris la ville lundi, marquant un tournant majeur après près de 8 mois de conflit. L'Union européenne a approuvé ce mercredi la mise en place d'une mission militaire de formation des armées du Mozambique pour aider ce pays à lutter contre les groupes armés djihadistes. Le Portugal a indiqué en mai être prêt à fournir la moitié et à envoyer des instructeurs au Mozambique après l'attaque de la ville portuaire de Palma le 24 mars par des groupes armés djihadistes actifs dans la province du Cabo Delgado à la frontière avec la Tanzanie. Au Soudan, des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui dans plusieurs villes pour réclamer la démission du gouvernement en raison des mesures d'austérité mises en place dans le cadre de réformes soutenues par le FMI. Ces manifestations surviennent moins de 24 heures après que le FMI a annoncé une aide économique massive pour le Soudan avec un allègement de dette de 50 milliards de dollars, représentant près de 90% de la dette du pays. En Algérie, le président Abdelmajid Tebboune a nommé le ministre des Finances, Ayman Ben Abderrahmane, au poste de premier ministre et lui a demandé de former un nouveau gouvernement. La présidence a annoncé sa nomination pour remplacer Abdelaziz Djerad, qui a démissionné la semaine dernière à la suite des élections législatives du 12 juin.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ouest du Canada et des États-Unis ont battu des records de fortes températures qui ont fait des dizaines de morts. Des campagnes de vaccination anti-COVID ont été annulées et des écoles fermées. La vague de chaleur est à l'origine de plusieurs incendies de forêt. Nathalie Barge.
Dans l'ouest du Canada, le mercure a grimpé jusqu'à 49,5 degrés Celsius lundi dans le village de Lytton, au nord-est de Vancouver, où la norme saisonnière est de 21 degrés. Les climatiseurs et ventilateurs sont en rupture de stock. Selon la police, au moins 134 personnes sont décédées depuis vendredi dans la région. Outre la Colombie-Britannique, des alertes à la canicule ont aussi été lancées pour les provinces plus à l'est de l'Alberta, jusqu'à la frontière avec l'Alaska. Dans le nord-ouest des États-Unis, la température est montée lundi à plus de 46 degrés Celsius à Portland et près de 42 degrés à Seattle, où la majorité des logements sont dépourvus de climatiseurs. À Portland, de nombreuses personnes ont trouvé refuge dans des lieux climatisés improvisés par les autorités locales. La chaleur extrême combinée à une sécheresse intense dans l'ouest américain a favorisé plusieurs incendies. Le lava fire à la lisière de l'Oregon et de la Californie a brûlé des centaines d'hectares, contraignant les autorités à évacuer des habitants.
Près d'une semaine après l'effondrement d'un immeuble du front de mer de la Floride, le bilan s'est encore alourdi ce mercredi, passant à 16 morts, tandis que 147 personnes sont toujours portées disparues. Nous avons trouvé 4 nouvelles victimes, a indiqué aujourd'hui la maire du comté de Miami-Dade, Daniela Levin-Cava, lors d'une conférence de presse. Le président Joe Biden doit se rendre sur place demain jeudi.
À présent, la minute éco avec John Lindon.
La Banque ouest-africaine de développement va épauler la société Énergie du Mali par un prêt de 8,5 milliards de francs CFA. D'après Financial Afrique, cet appui devrait permettre de renforcer le réseau de transport et de distribution de l'électricité au Mali. Énergie du Mali fait face à d'énormes difficultés financières qui ont conduit à des coupures de courant presque endémiques. Le FMI a annoncé mardi un allègement des dettes de 50 milliards de dollars au bénéfice du Soudan. Le montant attendu de cette aide représente environ 90% de la dette totale du Soudan. En outre, dans le cadre de l'initiative PPTE, la dette du Soudan sera allégée de plus de 23 milliards de dollars. Elon Musk, le milliardaire et patron de SpaceX, prévoit d'investir 20 à 30 milliards de dollars dans son projet d'Internet par satellite Starlink. Sa société d'exploration spatiale SpaceX est en effet en train de lancer son service d'Internet satellitaire, un projet qui doit permettre une connexion à haut débit des régions reculées, notamment en Afrique, sans passer par des infrastructures terrestres. Son grand rival, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, prévoit lui d'investir 10 milliards de dollars dans son projet concurrent de satellite baptisé Kuiper.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Florent Ibengué n'est plus le coach de l'AS Vita Club. C'est la présidente de la formation congolaise Blestine Kazadi qui l'annonce dans un tweet. Chers supporters, je vous annonce le départ de notre coach Jean-Florent Ibengué. Au nom de l'AS V Club, nous le remercions pour les services rendus et nous lui souhaitons plein succès, a écrit Madame Kazadi à la tête de V Club depuis 2013. Jean-Florent Ibengué a remporté le championnat national congolais en 2015 et 2018, vainqueur de la Supercoupe en 2015. Il a été finaliste de la Ligue des champions CAF en 2014 et finaliste de la Coupe CAF en 2018. Des nouvelles de l'Euro, pas de match aujourd'hui et demain. Les dernières rencontres des huitièmes de finale ont été jouées hier. L'Ukraine s'est qualifiée pour les quarts en battant la Suède 2-1 après prolongation à Glasgow. Les deux nations s'étaient auparavant neutralisées lors du temps réglementaire 1-1. En quart de finale samedi à Rome, les Ukrainiens affrontent l'Angleterre qui a éliminé l'Allemagne 2-0 un peu plus tôt. Les affiches complètes des quarts de finale se présentent comme suit. Vendredi 2 juillet, on aura Suisse-Espagne à Saint-Pétersbourg et Belgique-Italie à Munich. Samedi 3 juillet, le Danemark joue la République tchèque à Bakou et l'Ukraine affronte l'Angleterre à Rome. Transfert, Patson Daka quitte le RB Salzbourg. Le club anglais Leicester City a embauché l'attaquant zambien de 22 ans qui quitte donc le club autrichien. Le montant du transfert n'a pas été révélé, mais la presse britannique a estimé la transaction à 26 millions d'euros pour le jeune joueur qui a signé un contrat de 5 ans avec les Foxes. Daka a marqué 68 buts
dans le besoin afin d'éviter la famine qui peut potentiellement affecter jusqu'à 1 million de personnes qui sont actuellement en danger. C'est la première priorité. Je pense que la deuxième priorité est de tenter de maintenir et d'institutionnaliser le cessez-le-feu de manière à pouvoir créer un espace de dialogue politique.
Pour des élus américains, ne pas créer ce dialogue finira par avoir de lourdes conséquences. Le démocrate Gregory Meeks.
Les partis essayent-elles simplement de considérer ce cessez-le-feu comme la prochaine phase d'un conflit prolongé, se transformant en guerre civile?
Robert Godec est secrétaire d'État adjoint par intérim aux affaires africaines.
Ce dont nous avons besoin, c'est un cessez-le-feu permanent avec l'engagement de toutes les parties. Pour le moment, nous n'avons toujours pas de déclaration du TPLF ou des Érythréens pour dire qu'ils s'engagent à un cessez-le-feu.
Le département d'État américain a déclaré qu'il accélérait l'examen des allégations d'atrocités commises par le gouvernement éthiopien au Tigré afin de déterminer si ces actes répondent à la définition légale des crimes de guerre.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Pour notre prochain bulletin d'information à 18h temps universel, ainsi que pour Le Monde aujourd'hui à 18h30 et à 19h30 TU. Ne quittez pas l'écoute. You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest, yeah. But what if I drop?
I was 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Lifting me up, lifting me up. Yeah. Turn me down, down, turn me down. Down. Take responsibility for everything I've done. Yeah. Holding it against me like you're the holy one. Yeah. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know. What if I, what if I trip? What if I fall? Then am I the monster? Let me know. And what if I sin? What if I, what if I break? Then am I the monster?
Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
The sky opens up when we touch it. It's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me.
the drama. And no, I can't stand it being fake. No, 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 no. I don't believe in nirvana. But the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain it. The way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy. They say we're too young and the p*** and the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing, but I don't know. They say we're too young and the p*** and the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing, but I don't know. That pleases the Father might be the hardest to take. When you come out of the water, I'm a believer, my heart is fleshy. Life is short with a temper like Joe Pesci. They always come and sing your praises, your name is catchy. But they don't see you how I see you, Parlay and Desi. Cross tween tween Hesse, hit the jet ski. When they get messy, go lefty like Lionel Messi. Let's take a trip and get the Vespas or rent a jet ski. I know the spots that got the best, we going next week. I wanna honor you. Rise groom, I'm my father's child. I know when the son takes the first step, the father's proud. If you make it to the water, he apart the clouds. I know he made you a snack like Oscar Proud. Suffering to be so now, gotta clean it up. Formalize the union and communion he could trust. I know I ain't leaving you like I know he ain't leaving us. I know we believe in God and I know God believe in us. You hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, 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 holy.
Vous êtes croyant, animiste ou athée, VOA Afrique vous accorde une tribune dans le dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manirakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleure que vous l'avez trouvée. Bienvenue au Dialogue des Religions.
I've been on my own. affaires de l'ambassade des États-Unis.
On vient d'annoncer encore un autre projet, bon, une somme d'argent de 1,2 million de dollars pour la région de Poule, pour continuer ses activités et les assister, parce que oui, c'est une région qui a besoin, qui avait des difficultés énormes, il faut les aider.
De retour de Miami, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Les États-Unis accueillent avec prudence l'annonce par le gouvernement éthiopien d'un cessez-le-feu immédiat au Tigré. La décision d'Addis Abeba intervient après la prise par les forces tigréennes de la capitale régionale Mekele. Mais pour certains législateurs américains, ce cessez-le-feu pourrait n'être que temporaire et n'empêcherait pas la situation de famine imminente qui guette des millions de personnes dans la région. Davantage de précisions avec Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, récit Jacques Aristide.
Des célébrations dans les rues de Mekele après l'annonce du cessez-le-feu unilatéral qui met fin à 8 mois de combat entre le gouvernement éthiopien et les troupes rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. À Washington toutefois, l'élu démocrate Gregory Meeks prévient que cette pause dans les affrontements n'est peut-être que temporaire.
Je ne peux qu'espérer que cela ouvre la voie à une résolution pacifique. Cependant, je reçois des informations selon lesquelles le TPLF menace d'entrer en Érythrée, ce qui constituerait une escalade claire et dangereuse de ce conflit.
Les combats se sont intensifiés la semaine dernière. Une frappe aérienne menée par l'armée éthiopienne a tué plus de 60 personnes sur un marché du Tigré. Les Tigréens accusent les troupes éthiopiennes et érythréennes d'atrocités, notamment de viols, mais aussi de bloquer l'arrivée d'aide alimentaire, entraînant une famine généralisée.
Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des actes de génocide ont été commis contre le peuple tigréen. La semaine dernière, le premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'il n'y avait pas de famine au Tigré. Le déni étonnant des conditions catastrophiques sur le terrain au Tigré est épouvantable.
L'Agence des États-Unis pour le développement international estime que jusqu'à 4,5 millions des 6 millions d'habitants du Tigré ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence et que près de 900 000 personnes vivent déjà dans des conditions catastrophiques. Le bilan des violences sexuelles est incalculable, d'après Sarah Charles de l'USAID.
Les agresseurs ont ciblé les épouses des prêtres. Les femmes sont victimes d'abus devant leur famille et elles sont aussi victimes d'une violence brutale. Comme je l'ai déjà dit publiquement, la gravité des abus est l'une des pires que j'ai jamais vues au cours de mes près de 2 décennies de travail humanitaire.
Selon le gouvernement éthiopien, le cessez-le-feu a été décrété pour permettre aux agriculteurs de cultiver leurs champs jusqu'à la fin de septembre. Cameron Hudson est de l'Atlantic Council.
La première priorité est de capitaliser sur ce cessez-le-feu pour essayer d'accéder aux communautés dans le besoin afin d'éviter la famine qui peut potentiellement affecter jusqu'à 1 million de personnes qui sont actuellement en danger. C'est la première priorité. Je pense que la deuxième priorité est de tenter de maintenir et d'institutionnaliser le cessez-le-feu de manière à pouvoir créer un espace de dialogue politique.
Pour des élus américains, ne pas créer ce dialogue finira par avoir de lourdes conséquences. Le démocrate Gregory Meeks.
Les partis essayent-elles simplement de considérer ce cessez-le-feu comme la prochaine phase d'un conflit prolongé se transformant en guerre civile?
Robert Godek est secrétaire d'État adjoint par intérim aux affaires africaines.
Ce dont nous avons besoin, c'est un cessez-le-feu permanent avec l'engagement de toutes les parties. Pour le moment, nous n'avons toujours pas de déclaration du TPLF ou des Érythréens pour dire qu'ils s'engagent à un cessez-le-feu.
Le département d'État américain a déclaré qu'il accélérait l'examen des allégations d'atrocités commises par le gouvernement éthiopien au Tigré afin de déterminer si ces actes répondent à la définition légale des crimes de guerre.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24/7.